Tout un monde.
Marie-Hélène Fraxé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir, un petit voyage du côté de Hong Kong, 20 ans après sa restitution à la République populaire de Chine par l'Angleterre. Hong Kong, une ville paradoxale, attachante, brillante et sinistre à la fois, hyper moderne et ancestrale. Hong Kong sous le regard d'un Français, entrepreneur et consultant qui en explore toutes les singularités depuis 30 ans. Il s'appelle Serge Berthier. Il est notre invité de ce soir. Il vient de publier « Vivre à Hong Kong » aux éditions de l'Archipel. Bonsoir Serge Berthier.
Bonsoir.
Alors vous êtes avec nous, on vous a un petit peu chopé entre deux avions parce que vous êtes encore entre Hong Kong et la France. Et puis vous avez un petit pied en Thaïlande aussi.
Tout à fait, tout à fait. Je suis pour deux mois en France. Donc je repars sur l'Asie et j'ai encore toutes mes activités à Hong Kong. Mais désormais, je suis aussi en Thaïlande pour des raisons de pollution à Hong Kong.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'au quotidien, la qualité de vie à Hong Kong s'est beaucoup dégradée. Et que j'ai passé l'âge de me faire... asphyxié.
Ah oui, c'est à ce point.
Par ouais. Les retombées de carbone dans la ville. Oui, c'est à ce point et c'est un peu triste.
Alors c'est une ville effectivement que vous décrivez à la fois comme charmante et assez infernale. Cette ville de 7 millions d'habitants et un peu plus d'ailleurs, elle a fait beaucoup parler d'elle au moment de ce qu'on appelait la rétrocession en 1997. Donc le Royaume-Uni l'a rendue à la Chine au terme d'un siècle et demi d'occupation. Et c'est une ville donc où vous êtes installé durablement à partir de 1986, donc vous l'avez vécu au quotidien, puis vous l'avez vécu dans ces changements progressifs que vous avez observés avec passion.
Hong Kong, c'est une ville multiforme, c'est quelque chose d'unique en fait, qui a beaucoup de charme quand on arrive, notamment parce que la baie est extraordinaire, surtout la nuit, à cause de toutes les petites lumières qui sont partout. Et évidemment, en 30 ans, j'ai beaucoup vu changer Hong Kong, mais j'ai aussi énormément vu changer la Chine, qui est juste limitrophe. C'était un point d'observation idéal.
Oui, parce qu'il y a une conjugaison de cités absolument capitales autour de Hong Kong et de la région de la rivière des Perles. Canton n'est pas loin, il y a le double de Hong Kong côté République populaire qui est Shenzhen. Donc c'est une conurbation, comme on dit.
Si on veut comparer Hong Kong pour que les gens se fixent l'esprit à quelque chose, on pourrait penser à Los Angeles, parce que de Hong Kong à Canton, il n'y a, à vol d'oiseau, que 60 kilomètres. Et disons que sur une place qui aurait 60 kilomètres sur 60 kilomètres, vous avez trois aéroports internationaux et à peu près 40 millions de personnes qui vivent, avec une économie extrêmement développée, puisque la province cantonaise a un PNB équivalent à la France. Ça donne un ordre d'idée. Et Shenzhen est une ville limitrophe au bout du métro qui est maintenant plus grande et que Hong Kong est économiquement plus riche.
Alors il y a Macao, pas loin aussi, dans la même conurbation. Cette Macao qui a été l'objet de... On parlera tout à l'heure d'ailleurs du goût du jeu qu'ont les Chinois, parce que vous développez beaucoup cette partie-là. Macao qui elle aussi a été rétrocédée deux ans plus tard, en 99 je crois, par les Portugais à la Chine.
Oui, Macao qui évidemment fait figure de toute petite ville à côté de ces immenses métropoles, puisque Macao a environ 500 000 personnes maintenant. Mais historiquement, c'est le cœur de ce qui s'est passé Et historiquement, c'est extrêmement riche. Et on ne peut pas dire ça de Hong Kong qui malheureusement a effacé son histoire assez rapidement.
Et quand vous êtes arrivé en 86, vous imaginiez que vous alliez assister à de tels changements ? Vous êtes arrivé d'abord pour quelles raisons ?
Alors mon arrivée à Hong Kong est tout à fait un hasard de la vie. J'ai d'abord vécu à Singapour, qui à l'époque était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Singapour, je travaillais pour une multinationale qui installait des champs pétroliers en Asie. Et l'aéroport principal de Singapour, pour vous donner une idée, s'appelait Paya Lebar. C'était un baraquement militaire en bois. Alors pour les gens qui y vont aujourd'hui, ils peuvent imaginer Changi, ce qu'ils voient. Et j'ai connu en fait le passage de Paya Lebar à Changi. Je connaissais rien de Hong Kong. Et je suis allé à Hong Kong parce que j'ai quitté ma multinationale qui me surpayait et qui, en réalité, me déprimait, parce que dans le milieu pétrolier, c'est assez déprimant. Et j'ai monté mes propres affaires à Hong Kong au départ en pensant que j'irais un peu comme un touriste, c'est-à-dire que j'allais tellement bien réussir que j'irais gagner mes sous à Hong Kong et que je vivrais sur la Côte d'Azur ensuite. En fait, rien ne s'est passé comme ça.
Mais vous étiez déjà dans le milieu d'affaires chinois, puisque à Singapour, le milieu d'affaires est majoritairement chinois.
Oui, en fait, j'ai rencontré le monde chinois à Singapour. Quand j'ai été à Singapour envoyé par ma multinationale, je connaissais rien de l'Asie. Je venais d'Afrique noire. Donc, vous voyez le contraste. Je suis parti directement du Gabon pour aller à Singapour. J'ai d'abord été sur un... Il n'y avait pas Internet. Donc, je remonte aux années fin 70. J'ai été regarder où était Singapour. Et quand j'étais à Singapour, mon bureau consistait de, dans le milieu pétrolier, vous avez ce qu'on appelle les quantity surveyors, c'était des Écossais. Et j'avais comme assistant à Singapour un manager chinois qui avait fait des études brillantes à Londres. Le problème, c'est qu'au bout d'un an, je comprenais strictement rien à la façon dont fonctionnait mon assistant. C'était pas une question de langage, c'était tout simplement, c'était un chinois et je découvrais le monde chinois.
Voilà, un petit extrait d'une musique de film bien connue, Le Monde de Suzy Wong, réalisé par Richard Quinn en 60. Et l'histoire, si nos auditeurs l'ont oublié, c'est un certain Robert Lomax qui quitte les États-Unis pour aller en Chine. Et il veut faire de la peinture, sa passion. Et puis, il va rencontrer Suzy Wong, dont il découvre qu'elle est une prostituée, mais une prostituée méritante qui envoie l'argent à son fils, gardé dans une zone sinistrée de Hong Kong. Et cette occidentale commence à développer des sentiments amoureux envers cette jeune femme. Alors si on a mis avec la réalisatrice Vanessa Nadjar ce petit extrait en prélude à notre conversation sur cette fois les gens de Hong Kong, c'est qu'il y a un personnage dans votre livre « Vivre à Hong Kong » qui est tout à fait attachant et qui est une dame justement qui dirige une maison. Alors on va dire quoi ? C'est pas un bordel, c'est une maison de rencontre. Elle s'appelle Jo et elle est la Mama Sam, c'est-à-dire, ça veut dire quoi à Hong Kong ? La mère...
Le chef d'équipe des filles qui travaillent dans les bars, on pourrait dire. Effectivement, Jo est un personnage très très attachant, puisque le livre traite de différents personnages à Hong Kong qui sont des personnages qui ont existé, qui existent. C'est pas un roman.
Oui, c'est une enquête.
C'est une enquête. Et je suis allé voir Jo parce que je savais qu'à Hong Kong, et pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait, c'est qu'il y avait une tradition. Hong Kong était le repos du guerrier pendant la guerre de Corée, bien avant. Enfin, tous les Britanniques coloniaux qui allaient à Hong Kong allaient vous raconter, un peu comme à Shanghai dans les années 30, que c'était Sodome et Gomorre et que c'était une place tout à fait étonnante. Et puis, il y avait le roman de Suzy Wong, qui est devenue très très célèbre et qui a projeté une image de Hong Kong pendant des années et des années. Le monde de Suzy Wong, c'est le monde de Hong Kong. Donc je voulais rencontrer Suzy Wong et j'ai donc été voir Joe, qui m'a expliqué comment fonctionnait cet univers. Alors Joe n'est plus une prostituée. Elle ne dira jamais qu'elle a été prostituée, mais il est bien évident dans l'univers où elle vit qu'elle a dû l'être à un moment donné. Mais là, elle est devenue une chef d'équipe. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais l'impression d'interviewer l'entraîneur d'une équipe de football.
Une femme très organisée, très structurée, humaine aussi, très attentive. Assez. Alors, est-ce qu'on peut parler de pensionnaire ?
Comment oui, ça je pense que si on veut apparenter ce qui se passe ou ce qui se passait, c'est exactement le monde de l'univers des maisons closes parisiennes des années 1900 ou à l'époque de Maupassant. Parce que elle a d'abord son équipe, elle la recrute, disons, par volontariat. Il y a personne n'est contraint d'aller travailler pour Joe. Elle ne contraint absolument personne à faire quoi que ce soit. C'est tout simplement un rituel qu'elle organise et elle essaye d'organiser le maximum de protection et le maximum de revenus pour ses filles et pour elle, évidemment.
Alors, ça jette aussi un jour sur la relation qu'entretiennent les Chinois, puisque Hong Kong, vous nous dites, est une ville à 90% chinoise. Donc, la relation au sexe qu'entretiennent les Hongkongais et, au-delà des Hongkongais, les Chinois, donc, qui est très différente de celle qu'on a traditionnellement en Occident.
Oui, tout à fait. C'est une question qui perturbe beaucoup. Il y a deux aspects du monde chinois qui nous sont complètement étrangers. Le premier, il est religieux et le deuxième, il est probablement dans le domaine des mœurs. Et les deux étant liés pour nous. Pour eux, non, c'est une continuité. Et en regardant bien les Chinois vivre, c'est très difficile de comprendre quelles sont leurs principales motivations, que ce soit pour des relations amoureuses ou des relations commerciales ou des relations sociales. Donc, Joe donnait un éclairage, ou j'essayais d'obtenir de Joe, en parlant avec elle, un éclairage sur quelle est la réalité de ses rapports par rapport à nous. J'avoue que j'en suis sorti assez confus, puis en même temps déçu, parce que nous avons toujours, nous, un esprit un petit peu canaille. Le Chinois, dans ce domaine-là, est très pragmatique. Donc, en quelque sorte, ça tombe à plat. Il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de... C'est quelque chose de quasi médical. Donc c'est un peu décevant.
Mais ça évolue en fonction des générations ou pas ?
Alors c'est ce que j'essayais de percevoir. Joe est jeune. La personne que j'ai interviewée, enfin aujourd'hui elle est un peu moins jeune. Elle a commencé à travailler à 16 ans quand elle devient dirigeante de toute son équipe, qui est quand même une trentaine de filles qui sont les plus chères de Hong Kong dans ce domaine-là. Elle a que 30, 32 ou 35. Elle masque son âge, j'explique pourquoi dans le livre, mais c'est à peu près ça. Donc elle est relativement jeune, on pourrait se dire elle est d'une génération moderne. Et en fait, elle s'avère extrêmement traditionnelle. Et on a toujours ce paradoxe que, quel que soit l'âge du Chinois qu'on interviewe, par rapport à nous, il est toujours très traditionnel. Dans le livre, d'ailleurs, il y a Benjamin, le plus jeune, qui est un homosexuel, qui est encore beaucoup plus jeune qu'elle. Et lui, alors, il est tellement traditionnel qu'on est complètement perdu.
Et justement, cette relation à l'homosexualité des Chinois est également singulière, parce que ils sont très traditionnalistes, en tout cas ceux de Hong Kong, très cadrés. Sur l'homosexualité, depuis fort longtemps, ils sont assez ouverts. Et disons qu'on a l'impression que le sexe, qu'il s'agit du sexe version homosexuelle ou du sexe plus classique, c'est hors sujet.
C'est un peu ça. En fait, c'est un domaine privé. Et c'est le même problème que la religion. C'est pour ça qu'il y a une grande similitude entre l'approche de la vie sexuelle ou de la vie religieuse. Parce que même au niveau gouvernemental, on considère que être religieux, par exemple, ou avoir des pensées religieuses, ou avoir la foi en quelque chose, c'est une conviction personnelle. Et à partir du moment où elle est personnelle, elle n'a pas d'intérêt pour la société. Elle reste personnelle. L'activité sexuelle, elle reste une activité privée, quel que soit l'objet de l'activité. Alors évidemment, depuis, je dirais, une centaine d'années, le monde occidental essaye de faire changer cette perception pour des tas de raisons qui seraient trop longues à développer. Et ça a un effet. Mais dans la réalité, dans la profonde nature chinoise, le sexe est fluide. Donc, nous avons moins de... Il y a moins d'achoppement. Benjamin accepte sa condition sans même savoir si elle correspond à quoi que ce soit. Il se pose pas de questions éthiques. Il n'y a pas non plus de questions subséquentes à ça. Alors, la problématique avec le monde chinois, c'est qu'il est très important d'avoir un héritier mâle. Donc, qui dirait rapport homosexuel, dit pas d'héritier. En fait, c'est là où on voit la fluidité du système, c'est que on peut très bien être marié, être homosexuel. On le découvre en Occident maintenant en essayant de légiférer. Mais probablement chez les Grecs c'était comme ça, chez les Romains c'était comme ça, chez les Chinois c'est toujours comme ça.
C'est le clan qui compte avant tout.
Alors, ce qui ressort des interviews des gens que j'ai vus, et on le voit dans le livre, donc avec des gens nés en 1925 qui vont jusqu'à des gens nés en 1975, c'est que la notion de clan, la notion de famille est fondamentale. Ça reste le cœur de la raison de vivre, en fait, qu'on a un peu perdu en Occident. Donc le clan, ça s'étend pas qu'à sa femme, qu'à ses enfants, ça s'étend en fait à la défense de la famille. Et la famille, ça peut être aussi un enfant adopté, c'est ça qui est très curieux. C'est
oui, l'adoption nous, est facile là-bas.
L'adoption est facile parce que il y a eu d'abord beaucoup de misère, et donc l'idée qu'on cède un enfant à une autre famille qui n'a pas d'enfant, tout simplement parce qu'on peut pas nourrir toutes les bouches, n'a jamais été une tragédie, ni pour l'enfant, ni pour la famille. Bien sûr, c'est une tragédie individuelle, mais c'est à peu près le même débat qu'on aurait sur l'avortement. Ça reste une décision personnelle, mais elle est toujours faite dans l'intérêt de l'enfant. Si on a cédé l'enfant, généralement, c'est qu'on sait qu'on va le maltraiter. On ne pourra pas lui donner ce qu'on voulait lui donner. Donc on essaye de trouver une solution pour lui donner le maximum de ce qu'on pourrait trouver.
Un petit extrait du fameux film In the Mood for Love. On n'a pas pris la partie musicale la plus connue. Serge Berthier, je vois que cette musique vous plaît. Donc évidemment, c'est du Made in Hong Kong, cette ville de Hong Kong, 7 millions d'habitants dont nous parlons avec vous, puisque vous êtes un Français hongkongais, arrivé en 1986, vous avez toujours un pied à Hong Kong, vous y avez travaillé, et dans votre livre « Vivre à Hong Kong », donc on découvre les coulisses de cette ville à travers de longs entretiens avec des gens que vous connaissez bien, et on découvre des aspects tout à fait insolites. Par exemple, c'est une société très inégalitaire, dites-vous. 10% de riches et de très riches et 90% de pauvres. Et on n'imagine pas Hong Kong comme ça. On imagine que c'est plus moitié-moitié.
Hong Kong, au niveau économique, est un mythe qui a été propagé pour des raisons politiques. C'est-à-dire, Hong Kong, si vous regardez les revues financières, le Wall Street Journal, des revues de ce genre, vous allez voir que Hong Kong, c'est l'économie la plus libérale qui existe, la plus capitaliste qui existe, la plus riche qui existe, puisque normalement, si on divise le PNB hongkongais par la population, ils sont beaucoup plus riches que les Français. Tout ça repose sur le fait qu'on peut mentir avec des statistiques, on le sait tous, et on ment beaucoup à Hong Kong sur les statistiques depuis toujours. Les Anglais avaient intérêt à mentir, parce que ils voulaient montrer qu'ils s'occupaient très bien de la population, ce qui n'a jamais été le cas. Ils avaient intérêt à mentir aussi parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient d'excellents administrateurs vis-à-vis de l'équipe de Mao Tse-tung ou de Deng Xiaoping quand il y avait des conflits entre le fait de montrer Hong Kong comme une image et un symbole de la réussite et la Chine un symbole de la déchéance. Et la vérité est tout à fait autre. On la découvre au quotidien, justement. On la découvrait encore plus dans les années 90, quand il suffisait de prendre le métro et de sortir derrière Kowloon, du côté de Tsim Sha Tsui, etc. On était dans des ruelles où vraiment on était en 1920, dans la misère, et où il n'y avait pas grand-chose. Hong Kong a autant de milliardaires que la France, sur 8 millions de personnes. Hong Kong a plus de Lamborghini, par exemple, et de Rolls-Royce que la France. Donc, si vous voulez projeter une image d'une société riche, vous allez faire quoi? Vous allez filmer ça. Et vous allez dire à la fin, ben oui, parce que comme en Europe, il y a des riches, mais donc ça veut pas, il y a des pauvres aussi, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui, entre les deux. La réalité est pas du tout ça, parce que des études ont montré que le fameux coefficient Gini, qui mesure la distribution de l'argent, Hong Kong est classé premier, alors qu'il faudrait qu'il soit dernier si c'était égalitaire. C'est pas du tout égalitaire.
Alors on le voit à travers les parcours en dents de scie de vos interlocuteurs, c'est très étonnant de voir comment, d'abord ils viennent presque tous d'ailleurs, hein, ils ne sont pas de Hong Kong, ils viennent de plein de régions différentes de la Chine, et puis à un moment, leurs parents ou leurs grands-parents ou eux-mêmes ont très très bien réussi dans les affaires, et puis ça s'est effondré, ils deviennent extrêmement pauvres, et puis ils ont rebondi. On a l'impression d'une incroyable volatilité.
Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de volatilité sur une période assez longue. Et puis, en fait, paradoxalement, il y a une constante. Hong Kong, c'est une zone de guerre. Ce qu'on ne voit pas dans les médias, et quand on parle de Hong Kong, c'est qu'on s'imagine que c'était une colonie qui était un peu à l'image des colonies africaines, loin des zones de guerre. Hong Kong, c'est à peu près la frontière syrienne aujourd'hui. Pour imaginer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens qu'on rencontre qui ont eu un long parcours, en commençant par la personne la plus âgée, ont vécu des périodes de guerre qui ont duré 15 à 20 ans, qui n'étaient pas que des guerres entre l'Occident et la Chine, et qui ont déplacé énormément de populations. Les gens qu'on rencontre, c'est pas étonnant qu'ils ne soient pas hongkongais, à part un ou deux, parce que quand, juste avant la guerre, 1930-1935, c'était 250 000 Chinois, même pas répertoriés, ils n'avaient pas de carte d'identité, c'était des réfugiés, on ne savait pas qui c'était, et il y avait 15 000 Britanniques. C'était tout petit. Ça n'a rien à voir avec les 8 millions d'aujourd'hui. Donc ces gens-là sont venus de frontières, de provinces qui avaient plus ou moins de guerre, et la plupart sont passés par Macao pour arriver à Hong Kong. Et la seule chose qui intéressait les Anglais, c'était le port. Le port employait 30 à 40 000 personnes, c'est tout.
Alors, est né au moment de la restitution, donc a grandi proche de Hong Kong, la ville de Shenzhen. Alors, au début, il y avait l'impression que Hong Kong était favorisé, Shenzhen, c'était la ville émergente où personne ne voulait aller. Ce que vous nous racontez dans ce livre, c'est que maintenant, beaucoup de gens veulent quitter Hong Kong pour aller à Shenzhen. En quelque sorte, cette ville qui est côté République populaire de Chine a supplanté Hong Kong.
Oui, c'est totalement le cas. Et moi, je me souviens très bien être allé à Shenzhen en 1986.
Qui est à quelle distance de Hong Kong?
Alors, si on prend la distance la plus proche, c'est 15 kilomètres. C'est-à-dire, quand on est à Chatine et qu'on va à Shenzhen, c'est 15 kilomètres, c'est tout. C'est absolument à côté, c'est le village d'à côté. Il y a une rivière qui les sépare, mais c'est la même chose. D'autant plus que la population parle la même langue à droite et à gauche. Vous savez, en France, il y a plein de villages qui s'appellent le haut et le bas. Alors, on pourrait dire, il y avait Hong Kong le haut et Hong Kong le bas. C'était à peu près ça. Mais je me souviens être allé à Shenzhen en 1986 pour la première fois, pour aller prendre un train de Shenzhen à Canton. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de Hong Kong pour aller à Canton, à part prendre l'avion, ce qui était ridicule. Donc, je sors de la gare. Et là, je vois des chemins de terre. Il n'y avait pas de bitume, il n'y avait pas de route et il n'y avait pas de trottoir. C'était des chemins de terre. Des chemins comme on peut voir en France quand on sort des routes, mais qu'on avait dans les années 30 en France. Aujourd'hui, Shenzhen, c'est une ville où les autoroutes à six voies ressemblent aux autoroutes françaises. C'est-à-dire, ils sont fleuris de partout, ils sont très beaux, ils sont bien faits, il y a des ponts qui sont bien faits. Je souligne ce détail parce qu'à Hong Kong, c'est les rois du béton. Quand ils font une autoroute, il n'y a pas une fleur dessus.
Et donc, tout le monde veut y aller à Shenzhen.
Alors, la qualité de vie est bien meilleure parce que la Chine a un plan sur la façon dont on organise une nouvelle ville et la société. La grande différence, et on peut la comprendre aujourd'hui, peut-être d'autant plus qu'on parle du Brexit. D'un côté, vous avez le modèle de planning, disons, britannique, qui remonte au 19e siècle. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des côtes, quand vous avez une colonie? Eh bien, vous commencez par mettre l'armée le long de la côte, vous commencez par mettre l'armée partout, et vous commencez par prendre les meilleurs espaces pour vous. Le gouvernement chinois, quand il conçoit un développement, il va commencer par faire les infrastructures pour les gens. Donc il va commencer par diviser en grands carrés, ce qu'il a toujours fait, même il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, il met des grandes routes, il va mettre un hôpital au bout, etc. Du coup, Shenzhen se retrouve bien mieux dessiné.
Étonnante et paradoxale Hong Kong, telle que vous la décrivez, Serge Berthier, dans ce livre « Vivre à Hong Kong » qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est plein d'informations. Ce qui est étonnant, on parlait des parcours comme ça accidentés de toutes les carrières chinoises. Il y a une résilience incroyable, un courage des gens. Ça, c'est très frappant dans la manière dont vous décrivez les parcours de vie parce que vous avez divers interlocuteurs. Il y a aussi cette passion du jeu dont on sait qu'elle est très chinoise, mais qui perdure, et alors qui est associée à une espèce de maîtrise de soi, c'est-à-dire on perd des fortunes, on en regagne, tout ça en restant extrêmement placide, et derrière veille ce que vous appelez les loan sharks, c'est-à-dire les prêteurs qui prêtent des sommes énormes, comme ça, dans l'instant, et on peut imaginer des taux usuraires.
Oui, alors le rapport du chinois au jeu est assez curieux, ils sont fascinés. Je pense que c'est parce que d'abord ce sont des gens qui aiment s'amuser, ce sont des gens latins en fait. Si on peut attribuer quelque chose qui nous rapproche d'eux, c'est que le chinois...
Mais on peut dire le chinois pour un si grand pays avec des régions si diverses?
Oui, pour certains traits de caractère et non pour tout. Mais en ce qui concerne le jeu, alors certainement on peut dire le chinois en général, parce qu'ils sont tous fascinés par ça. Et en même temps, c'est parce que ils pensent, enfin mon interprétation de ça, c'est que ils sont très superstitieux. Ils ne sont pas du tout religieux, mais ils sont superstitieux puisque tout est lié à leur naissance, au signe astral, au fait qu'ils appartiennent à un certain signe, que la Terre fonctionne avec cinq éléments, qu'ils appartiennent aux éléments. Donc en fait, il y a un côté totalement naturaliste. À partir de là, on pourrait dire que leur destin est tracé et le jeu fait partie d'un élément dans ce destin. Parce que si leur destin avait dit qu'à un moment donné, ils devaient devenir très riches par le jeu, c'est simplement parce que une conjonction des signes et des planètes est arrivée au bon moment. Et dans ce cas-là, c'est inéluctable. Donc il y a une confiance absolue que ça, c'est inéluctable. Évidemment, ça marche pas parce que ça se répète en permanence, mais ça pourrait marcher une fois. Enfin, c'est le principe du loto. Donc ils se laissent aller à ce genre de choses très facilement.
Serge Berthier, merci pour donc ce reportage, en quelque sorte, à l'échelle de vos 30 années de vie à Hong Kong. Hong Kong, vous êtes toujours présent, quelques mois par an, où vous avez toujours plaisir à vivre, visiblement, qui est un peu votre deuxième patrie.
Oui, c'est en fait Hong Kong, là je suis à Paris, mais j'y retourne, ça fait partie de moi, parce que ça fait trop longtemps, et puis j'ai encore des affaires là-bas. C'est un monde dans lequel finalement j'ai passé pratiquement toute ma vie professionnelle. Donc ça fait partie de moi-même, mais ça me reste toujours, je suis toujours fasciné.
Merci Serge Berthier. Donc Vivre à Hong Kong vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Tout un monde, le magazine des cultures se termine à la prise de son. Delphine Baudet à la réalisation, Vanessa Nadjar. Chaque samedi, tout un monde, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo. vous est proposée par Marie-Hélène Freissé. Et sur France Culture vous attend maintenant Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.
早已无人能再次唤醒。